Laetitia nous a parlé de la prière, et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et j'aimerais toujours vous réinviter pour nos réunions de prière, que ce soit le mardi matin à 10h, de 10h à 11h, pour ceux qui peuvent se libérer. C'est le cœur qui fait vivre l'Église. Et il y a cette réunion aussi le vendredi matin. Oui. Et donc, vendredi soir, exceptionnellement, pour ceux qui ne peuvent pas être réguliers, nous avons cette réunion de jeûne et prière. Et c'est une invitation de la part du Seigneur. Si vous le pouvez, venez, n'ayez pas peur. Nous nous exprimons, nous parlons au Seigneur comme nous parlons entre nous. Voilà. J'aimerais encore prier. Notre Papa Céleste, ce matin, toi, tu sais dans quelle disposition de cœur nous sommes venus. Quelles sont nos attentes? Quelles sont nos craintes du quotidien, Seigneur? Et nous aimerions tellement être de bons serviteurs. Et nous avons besoin de ton enseignement. Nous avons besoin de ta puissance. Bénis ces instants et que, malgré cette chaleur, Seigneur, ton esprit puisse nous parler. Amen. Alors, bonjour à tous encore. Ce matin, je vous propose de parler d'un thème. Et le thème s'appelle la bienveillance. Alors, quelqu'un peut me dire ce qu'est la bienveillance ? Non, non, mais allez-y. La bienveillance, c'est quoi ?
Porter un regard positif sur...
Bon, comme d'habitude, bon, d'abord, je vais vous dire que la bienveillance, ce n'est pas la bonté. Hein, parfois, on dit, ben, c'est la bonté. Mais quand on lit dans Galates 5, le verset 22, le fruit de l'esprit, qui est au singulier, on ne parle pas des fruits de l'esprit, hein, le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Donc la bienveillance, c'est l'une des caractéristiques. Donc le fruit de l'esprit, c'est comme une salade de fruits qu'on ne peut pas trier, qu'on ne peut pas défaire. Il y a beaucoup d'ingrédients, mais c'est l'ensemble forme le fruit. On ne sépare pas l'un de l'autre. C'est quelque chose que le Seigneur veut faire croître en nous. Il faut quand même qu'on lui laisse la place pour ça. Donc, la bienveillance, une caractéristique du fruit de l'esprit. Alors, qu'est-ce que la bienveillance ? Selon le dictionnaire, c'est une disposition favorable envers quelqu'un. Mais être bienveillant, c'est faire du bien, c'est avoir, ça veut dire bien et voulant de l'Ancien Testament. Il y a une volonté de faire le bien. Ce n'est pas bien veiller, c'est bien vouloir. C'est une question de volonté. Avoir la volonté de faire du bien, quelqu'un qui veut du bien est bienveillant. Alors, je l'ai aussi regardé en allemand. En allemand, bienveillance, ça veut dire Wohlwollen. Wohl, ça veut dire bien-être. On veut le bien-être de l'autre. On veut que l'autre se sente bien. Vouloir que le prochain, l'autre, se sente bien. Ça, c'est la description. Lors de l'annonce de la naissance de Jésus, dans Luc 2, 13 à 14, quand les bergers reçoivent cette annonce, la chorale du ciel, la chorale des anges, une multitude de l'armée céleste a chanté « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes » dans certaines traductions, « bonne volonté ». On a bien cette bonne traduction. Bienveillance, Dieu signe par la venue de Jésus sa bienveillance. Il a la bonne volonté d'attirer les hommes à soi, alors qu'il les connaît bien. Jésus est le gage de la bienveillance de Dieu pour nous. User de bienveillance n'est pas dans la nature de l'homme. Ce n'est vraiment pas notre... Bon, quand quelqu'un est sympa, on peut être bienveillant avec lui. Mais il n'est pas question d'être bienveillant pour les sympas. N'est-ce pas ? C'est un acte de volonté, comme nous l'avons déjà vu dans le dictionnaire, et c'est une prise de risque. Être bienveillant, c'est une démarche de ma part. On offre de faire du bien sans savoir quel sera le retour. Le terme bienveillance ne se trouve pas très souvent dans la Bible. J'ai regardé dans ma concordance par rapport à l'amour, à la bonté. Il est très, très rarement utilisé. Nous le trouvons, par exemple, et nous allons nous attarder sur ce texte, selon les traductions, dans 1 Roi 12, 1 à 17. Je vous propose de lire ce passage. Donc, je place le contexte tout à l'heure. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfoui, loin du roi Salomon. Et c'est en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit, « Allez et revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ? Voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage ? Allège le joug que nous a imposé ton père ? » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le-nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. « Revenez à moi dans 3 jours. » Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards et il leur parla ainsi, d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Ainsi, le roi n'écouta pas le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole de l'Éternel que l'Éternel avait dite par Achaïa de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois ta maison, David !» Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé sur les impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Quelle triste situation, n'est-ce pas ? Le même passage est repris dans 2 Chroniques 10, si quelqu'un veut le relire. Voilà. Salomon vient de mourir. Ça, c'est le contexte. Ces dernières années étaient marquées par l'idolâtrie importée par les femmes étrangères. Salomon avait bien débuté et l'idolâtrie qui était venu avec ses femmes étrangères l'avait laissé pourrir spirituellement. Achia, un prophète, avait annoncé l'éclatement du royaume prestigieux de ce roi glorieux. Jéroboam, un serviteur remarquable, dans 2 Rois, 1 Roi 11, les versets 28, il est dit « Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. » C'était quelqu'un. Il s'était fait remarquer par Salomon qu'il avait installé. Mais quand Salomon a chuté, Dieu aussi a vu cet homme et il a dit « Je lui donnerai 10 tribus d'Israël. » Donc ça, c'est Jéroboam. Il y a toujours, faut faire attention avec le nom, il n'y a que le G qui change, n'est-ce pas? Donc, ce Jéroboam reçoit la promesse de devenir roi sur 10 des 12 tribus d'Israël. Quelque part, la promesse secrète, seuls les deux hommes, Achia et Jéroboam, étaient au courant, à fuiter. Ils étaient seuls quand il a eu l'onction pour devenir la promesse de devenir roi, et l'un des deux a cafeté. En tout cas, ça a fuité, et Jéroboam est obligé de fuir et se cacher en Égypte. Et c'est là que notre récit commence. Il était encore en Égypte quand Salomon est décédé. Et on l'appelle, il apprend la nouvelle en Égypte. À Sichem, tout semble encore possible. Pour l'instant, rien n'est fait. Tout semble possible. Tout Israël était venu pour faire roi Roboam, fils de Salomon. Ils étaient tous présents. Les responsables, peut-être pas tout le peuple, mais beaucoup de personnes étaient présentes, représentant toutes les tribus. Un dialogue s'engage. Israël demande un allègement de charges. Les frasques amoureuses et les abominations religieuses de Salomon avaient eu un coût exorbitant et le peuple en avait porté les frais. Il a construit des temples à toutes ses divinités et toutes ses femmes lui revenaient très cher. Il y avait plus de 1000 femmes autour de lui. Et c'est, en général, ce n'étaient pas des petites servantes, c'était des princesses qui avaient un train de vie. Et il fallait que le peuple survienne. D'où ce joug pesant dont le peuple parle. Roboam semble agir avec sagesse. 3 jours de réflexion. Rentrez chez vous, dans 3 jours, vous aurez de mes nouvelles. Revenez dans 3 jours. De consultation. Les anciens, on parle ici des vieillards, et c'est un peu péjoratif, je pense, parce que c'est rare que dans la Bible, on utilise ce terme. En allemand, on ne fait pas de différence. J'ai regardé entre « älteste » et « alten ». Mais donc, ici, on parle des vieillards un peu. Leurs conseils, bon, on l'entend, mais écoutez, c'est autre chose. Les anciens, les vieillards qui avaient servi Salomon, lui donnent un conseil de sagesse. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, si tu leur parles avec des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. C'est une promesse, n'est-ce pas? Alors que la situation est très pointue là, très dangereuse pour Roboam. L'instant est décisif. La solution proposée est sage et pleine de promesses. Mais il y a un mais. Mais Roboam laissa le conseil des vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. « Si tu cèdes, toi et nous ne pourrons peut-être plus mener le train-puits exorbitant qui est le nôtre actuellement. » Moins de charges pour le peuple, c'est des restrictions pour nos loisirs et tu perdrais de ton autorité de roi. Pas de bienveillance pour ceux de la base. Au contraire, il faut les mater dès le début. Mon père vous a mis de la pression, moi je vous écraserai. C'est clair, c'est clairement de la malveillance qui est prônée ici par ces jeunes gens, par les copains pourris gâtés du futur roi Roboam. Le troisième jour, le peuple et Jéroboam sont au rendez-vous fixé. La réponse tombe. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant et moi je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, moi je vous châtierai avec des scorpions. » Remarquez quand même que le souvenir de Salomon, sa manière de traiter le peuple mentionné par Jéroboam lors de sa requête d'allègement de charges, ne correspond pas à l'image de ce jeune Salomon zélé pour accomplir la justice de Dieu avec sagesse. Vous vous souvenez quand il a dû trancher pour ce bébé mort et ce bébé vivant, comment il a eu la sagesse de Dieu, comment il cherchait le bien. Et ici, ce n'est pas du tout l'image que le peuple a de Salomon. Ça s'est drôlement dégradé. Il était tellement zélé pour accomplir la justice de Dieu avec sagesse et impartialité. Sa déchéance morale l'a laissé s'endurcir. Il avait perdu l'attachement fidèle de son peuple. Le peuple n'en avait plus grand-chose à faire de Salomon. Il devait être content presque qu'il soit débarrassé, alors que d'abord c'était la gloire, l'inauguration du temple, la reine d'Égypte ou la reine de Saba qui vient et qui remarque qu'il n'y a nulle part un homme aussi sage que lui, et tout ça pour ça. Il était devenu un roi distant, méprisant, exigeant à outrance. L'influence des femmes étrangères et les cultes rendus aux abominations, qu'étaient les dieux étrangers. Il y avait Astarté qui racontait, il y avait Milcom, Kemosh, Moloch. Kemosh, c'était une divinité à qui on offrait les enfants. On sacrifiait les enfants, on les jetait dans le feu. On offrait des sacrifices d'enfants. Salomon avait vraiment perdu son cœur pour son Dieu et pour son peuple. Roboam et ses copains pouvaient mener une vie dissolue, sans restriction. De toute façon, à l'image du père, il avait une mauvaise image. Son fils, il s'est dit, si ça c'est la vie, ben profitons-en. Roboam et ses copains pouvaient mener une vie dissolue, sans restriction, mais aux frais du peuple. La réponse au peuple est cassante. Moi, j'ai le pouvoir et je détruis le premier qui rouspète. Les scorpions, ce n'est pas juste pour chatouiller, n'est-ce pas ? C'est mortel. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achaïa de Silo à Jéroboam. Était-ce une fatalité qu'on en vienne à ça ? Il fallait que s'accomplisse la parole. Dieu peut-il changer ses plans ? Si maintenant, Roboam avait dit, c'est vrai, on va alléger, on va servir le peuple, on va être heureux tous ensemble. Je crois que Dieu aurait répondu. Nous avons quelques exemples où Dieu met l'homme devant ses responsabilités. Je vous propose de lire l'histoire de Caïn, quelques versets dans Genèse 4. Les versets 3 à 7. Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est possible. Dieu ne voulait pas le narguer, n'est-ce pas ? Un changement d'attitude aurait été possible. Je reviendrai dessus. Un deuxième passage, dans 2 Rois 20. Où Dieu revient sur une décision. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, car j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. » J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici, je te guérirai le troisième jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Jusque-là. Et puis j'ai pensé aussi à un verset où tout semble arrêté. Dans Romains 6, 23, il est dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». C'est arrêté. Il y a un jugement. Cette affaire est réglée. Et comme tous sont pécheurs, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu a pris un arrêté, mais il a aussi prévu une sortie de secours. Caïn avait apporté un sacrifice, une offrande souillée. Il n'avait pas une bonne disposition de cœur et Dieu n'a pas accepté le présent. Au lieu de chercher à entrer dans la grâce, il s'est braqué contre Dieu. Et révèle sa jalousie contre son frère. Dieu le prévient. Si tu agis bien, tu retrouveras la paix. Mais attention, si tu restes dans ton attitude, le péché s'installera et ses désirs se portent vers toi. Toi, domine sur lui, cherche sincèrement mon aide. Il n'a pas écouté Dieu et saisi la grâce. Mais il y avait une porte de sortie. Ézéchias, un des rois les plus fidèles de Juda, fervent purificateur, il avait saccagé toutes ses divinités, tous ses faux dieux. Il avait apurer le peuple. Un homme qui cherche le secours de l'Éternel alors que la superpuissance assyrienne l'assiège dans Jérusalem et voit une délivrance surnaturelle formidable. Ça, c'est le chapitre 19 de 1 Roi. Le voilà malade à mort. Dieu a décidé de le ramener à la maison. Ésaïe lui annonce la nouvelle. Tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias implore son Dieu et en réponse, il obtient 15 années de grâce de plus. Dieu a changé son plan. Nous, on sait que plus tard, la fin d'Ézéchias n'était pas aussi glorieuse qu'elle ne l'était au moment s'il était parti là. Mais Dieu lui a fait grâce. Il a répandu son cœur devant Dieu. Dieu répond aux prières. Dans Romains 6, 23, le verdict est implacable, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu a lui-même pourvu au secours pour ceux qui implorent sa grâce et acceptent le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus, le Seigneur. Et que dire de Ninive, par exemple ? C'était arrêté. La date du jugement était fixée. La date, Jonas a annoncé, dans 40 jours, Ninive va être rasée. Et Jonas a fait du zèle pour leur crier ça aux oreilles. Et suite à l'avertissement de Jonas, ils ont jeûné et se sont repentis. La grâce a été accordée. Dieu a changé ses plans. Alors, en parlant de Roboam, si Roboam avait agi avec bienveillance, certainement, il aurait eu une autre fin. Et la scission n'aurait pas eu lieu à ce moment-là. L'orgueil de Roboam, sa soif de pouvoir, son style de vue luxurieux, l'a empêché d'user de bienveillance envers ses sujets. Il aurait eu les moyens. Tout et toute la structure était là. Il y avait encore de l'argent. Il aurait pu le mettre au service. À peine sa réponse exprimée, Israël l'abandonne. Fini le jour de ce despote. Chacun rentre dans son foyer. L'aventure royale est finie. Roboam n'a pas saisi l'ampleur de la crise. Il envoie de suite son percepteur récolter les nouveaux impôts. Je vous en mets plus. Le pauvre est lapidé. Adoram, le responsable des impôts, le percepteur, il est lapidé. Ah, cette fois-ci, plus rien à faire, on ne paiera plus un sou pour ce roi. Et à cette nouvelle, le roi prend la fuite. Juste avant, il était encore roi sur tout Israël, et là, il s'enfuit. Tout est gâché. La bienveillance aurait été payante. Là, il lui reste une tribu. Et pas à cause de lui, à cause de David. Et aussi en vue du salut que Dieu a promis par David. C'est l'effondrement de tout le système. Ses jeunes amis et lui ont certainement dû revoir leurs exigences et leur style de vie. Parce que quand on divise les rentrées d'argent à 1/12 ou à 2/12, ça coince quand même un peu. Nous avons vu que la bienveillance est le fruit de l'esprit. Dans nos vies de croyants, quelle place a la bienveillance? Il faut bien qu'on vienne un peu à parler de nous. Dans l'Église, entre frères et sœurs, le bien vouloir, bienveillance, est-il une priorité? En temps de crise, l'Église est-elle un refuge où le bien de l'autre est sensible? Peut-on le ressentir quand on entre ici? J'aimerais juste citer quelques exemples dans la nature pour illustrer une bienveillance qui est naturelle, active en temps de crise. Je prends l'image d'une colonie d'abeilles dans une ruche en hiver. Elles ne dorment pas couchées chacune dans son coin. Pour leur survie, elles forment une grappe. Vous avez déjà vu ces reportages. Elles forment une grappe qui évolue constamment. Celles qui sont au cœur de la grappe, au chaud, s'avancent vers l'extérieur. Pour que celles qui sont dehors, qui se sont refroidies, puissent se réchauffer. Et ça, c'est un rythme continuel. Volontairement, chacune cherche le bien des autres. Si la moitié se dit on va rester à l'intérieur, de toute façon, celles du dehors vont mourir et après, il n'y aura plus de protection non plus. Sa propre survie en dépend aussi. Et si nous ne pratiquons pas la bienveillance, la survie de l'Église n'est pas assurée. Les pierres vivantes que nous sommes sont aussi appelées à user de bienveillance envers les autres, ceux qui sont assis devant, derrière, à droite, à gauche de nous, que nous n'avons pas toujours choisi. C'est le Seigneur qui ramène, qui crée son Église. La vie de l'Église, sa survie en dépend, et on peut dire qu'aujourd'hui la crise n'est pas loin. La crise dans notre monde. Le réflexe du monde, dans des situations de crise, c'est chacun pour soi. Et on le voit aujourd'hui. Les forts gagnent, les plus forts, tant pis pour les faibles. Roboam et ses copains se sont trompés. À la fin, ils ont tout perdu. Un autre exemple, dans la nature aussi, une belle forêt. Les arbres les plus solides sont ceux de la lisière. Ça, vous pouvez demander n'importe quel forestier. Les arbres de la lisière sont les plus costauds. Les aléas météorologiques les ont incités à s'enraciner solidement. Il fallait pouvoir tenir quand le vent souffle, quand le chaud vient. Ces arbres-là font mûr. Ils ont dû aussi développer beaucoup de branches basses vers l'extérieur pour faire un rideau solide contre la chaleur, l'agression du vent et ainsi de suite. Regardez une forêt normale, toute la lisière, elle est faite d'arbres qui ont des branches, des ramifications. Les racines, souvent, on ne les voit pas, mais si on peut les voir, il y en a, et il y en a beaucoup plus que ceux qui sont dans le bon cloître à l'intérieur. Ce ne sont pas les plus beaux arbres, souvent. Ils ne sont pas utilisables pour le bois de façonnage. Il y a des nœuds partout parce qu'il y a des branches. Les autres, ceux qui sont serrés au milieu, ils se poussent vers le haut et puis ça fait des jolis troncs. Mais la sécurité vient de ceux qui sont tout autour. C'est une image, elle vaut ce qu'elle vaut, n'est-ce pas? Ils tiennent fermement. À l'intérieur de cette muraille naturelle, les autres membres de cette famille peuvent se développer sereinement. Comme un rempart de bienveillance, les arbres protecteurs favorisent la croissance de tous les autres. Si jamais on les abat, toute la forêt est en danger. Récemment, un ami a fait abattre des sapins qui étaient en lisière, il y a 5-6 ans. Et depuis, les chênes qui étaient derrière, ils dépérissent. Ils meurent l'un après l'autre, parce qu'il n'y a plus ce rempart de verdure à l'entrée. Les vieillards avaient dit à Roboam, si tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et tu leur réponds avec des paroles bienveillantes, ils te serviront, ils seront toujours tes serviteurs. Pour porter du bon fruit de l'esprit, le bon fruit de l'esprit, il nous faut être enracinés dans la bonne terre de l'Évangile. Ça ne sert à rien de pomper ailleurs, c'est dans la terre de l'Évangile que nous pouvons fixer nos racines. Notre source rafraîchissante qui permet une croissance fructueuse, c'est la certitude qu'en Christ, Dieu a certifié sa bienveillance. Rappelez-vous, bienveillance envers les hommes. La venue de Jésus, c'est sa bonne volonté envers les hommes. Dieu a la bonne volonté, et pas seulement pour les quelques-uns que nous sommes, il a cette bonne volonté pour tous nos contemporains. Ils ne le savent pas. Ça, c'est notre mission. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Alors, une question, sommes-nous connus, ici et dehors, comme des gens bienveillants envers nos contemporains? Sommes-nous un parfum de bonne odeur? Si je prie pour les autres, pour leur salut, la bienveillance pour eux s'installe dans mon cœur. Si je prie honnêtement que tel ou tel puisse trouver, découvrir le Seigneur. La bienveillance pour lui s'installe dans mon cœur. Si ce n'est pas le cas, notre témoignage n'est pas très crédible. Aspirons à porter ce fruit qui nous identifie comme bien-aimés et bien-aimants du Seigneur. Amen. Prions encore. Père, nous avons vraiment besoin d'être conscients que tu nous as placés ici pour être bienveillants avec nos contemporains, ceux qui sont autour de nous, nos frères et sœurs d'abord, mais tous les autres aussi avec qui nous sommes confrontés, que ce soit par le travail, par nos relations ailleurs. Seigneur, donne-nous cette bienveillance qui est comme un aimant qui attire à toi. Amen.